Voilà, j'aimerais parler avec vous ce matin d'un sujet qui, en fin de compte, est là au quotidien dans nos vies, malgré nous, c'est les regards que l'on peut avoir. Il y a une différence entre voir et regarder. Le dictionnaire dit de voir, c'est fait appel au sens de la vue, je vois, j'ai ce sens qui fonctionne bien, je vois et je rajouterai, je vois et puis c'est tout. Salomon a dit, l'œil ne se rassasie pas de voir. Si on voudrait ne pas voir, on ne pourrait pas, parce que c'est naturel chez nous de voir. C'est une fonction naturelle du corps humain. Mais regarder, le dictionnaire nous dit de regarder, c'est s'appliquer à voir. S'appliquer à voir. Accentuer ce sens dans le but d'analyser, de comprendre. Je fais un effort pour regarder, je m'applique à voir. Et j'aimerais, sous trois aspects, développer le premier point. Comment nous regardons-nous nous-mêmes ? Comment nous regardons l'autre et comment devons-nous ensemble regarder dans la même direction? Alors regarder, non pas pour avoir un constat négatif, voir ce qui ne va pas, ça c'est presque naturel chez nous, quand on regarde, on voit de suite ce qui ne va pas. Et pour cela, je ne dois pas regarder avec mes yeux, parce que mes yeux humains ont parfois une mauvaise analyse des choses. Mais quand mes yeux sont renouvelés par l'action de l'esprit dans ma vie, quand mes yeux regardent à la lumière de la parole de Dieu, alors je vois avec mes yeux spirituels. Éphésiens 1:8, on va lire plusieurs versets ensemble. Peut-être si vous avez le temps de les chercher, cherchez-les, sinon ils s'afficheront sur l'écran. Éphésiens 1:8 nous dit qu'il illumine les yeux de notre cœur. Cela fait appel à mes yeux spirituels, à la vue que je peux avoir au travers de l'Esprit qui agit en moi, au travers de la Bible qui affecte ma vie. Ne faire que voir avec nos yeux humains, ça engendre une analyse qui n'est pas toujours bonne. Comment je dois me regarder? Comment je dois, plus que cela, m'appliquer à me voir? Parfois, quand c'est pour nous-mêmes, on ne fait que nous voir. On fait que se voir. Et on a plus de facilité à regarder les autres. Mais la Bible nous encourage à nous appliquer à voir, à nous regarder, à nous sonder nous-mêmes. Je dois me regarder comme Jésus me regarde, en définitive. Comment me voit-il? Comment me regarde-t-il? Bien sûr, selon ce que dit la Bible. Alors j'aimerais dire déjà que Jésus nous voit et nous regarde pas que quand on en a besoin, pas que quand on le voudrait, mais il nous regarde constamment. Ah, c'est vrai Seigneur, tu vois cette difficulté, intervient, tu vois ce danger Seigneur, regarde ce danger. On aimerait que ce soit peut-être que quand on le voudrait, mais il nous regarde constamment. Et ça me fait penser à une petite histoire. J'aime bien les histoires juives. Les Salonnais le savent. Et c'est l'histoire de Moshe qui est dans le centre de Jérusalem. Et il a un rendez-vous d'affaires très important. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il n'a jamais vécu cela. Et il n'y a pas de place du tout dans Jérusalem. C'est impossible de trouver une place. Il tourne depuis déjà quelques minutes. Il s'éloigne du centre-ville, il revient. Et puis il dit, mais c'est pas possible, les parkings sont pleins, il n'y a pas de place, comment je vais faire? Et puis là, il se dit, tiens, je vais prier. Ça leur arrive parfois, amen. Hein, alléluia, on bénit les Juifs. C'est nos racines. Et puis, il dit, voilà, écoute, Dieu, si vraiment tu permets que je puisse avoir une place, et ça vous est déjà arrivé, il dit, je vais vraiment maintenant tout faire pour manger cachère. Je vais appliquer les sabbats à la lettre. Je vais observer toutes les fêtes, Yom Kippour et les autres. Je te promets de faire ça. Et puis, au miracle, une place se libère. Et là, il regarde dans le ciel, il dit, non, c'est bon, laisse tomber, j'ai trouvé. Il ne le fait pas et il ne regarde pas que quand on en a envie. Il nous regarde constamment, pas que quand ça nous arrange, mais constamment. Le Père et le Fils me regardent constamment. Hébreux 4.13 nous dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. 1 Pierre 3.2 nous dit, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et les justes, ce n'est pas uniquement ceux qui sont parfaits, mais c'est tous ceux qui ont été justifiés par le sang de Jésus. Ce matin, si tu es passé par la repentance, si tu as choisi d'abandonner ta vie, si tu es passé par la nouvelle naissance, alors tu es juste, alors tu es justifié. Amen. Dieu a un regard sur les justifiés, sur ses enfants. Dieu me regarde et quand je réalise cela, mon comportement change. Non pas par crainte, mais juste parce que je l'aime. J'ai un comportement que j'ai pour plaire à ma femme, pour plaire à mes enfants. Pourquoi? Parce que je les aime et parce que je sais qu'ils m'aiment. Dieu ne nous regarde pas pour nous surveiller, mais parce qu'il nous aime. Amen. Mon fils aîné a fait sa rentrée à la maternelle et donc quelques semaines après, on a sympathisé avec des parents et un des parents d'élèves disait à mon épouse, j'ai regardé au-dessus du portail pendant la cour de récréation, vous savez. Et il a dit, je l'ai fait une fois, je ne le ferai pas deux fois. Moi, je dis, je le ferai jamais. Parce qu'on sait ce qui peut se passer dans les cours de récréation des enfants. Il n'est pas là pour nous surveiller, notre Dieu, mais il est là pour veiller sur nous. Dieu nous regarde et comment nous voit-il? J'aimerais mettre l'emphase ce matin sur cet aspect de notre vie. Il me voit comme un fils, il me voit comme une fille. Je bénis Dieu pour le don qui a été donné. Est-ce que, bien sûr, je pourrais voir Dieu comme un père, mais je veux parler ce matin de comment il me voit et de ce fait, comment également je dois me voir au travers de son regard. Il a un regard de compassion. Il a un regard d'amour, un père envers son enfant. Ah, nous savons cela, Dieu nous aime, je sais, Dieu m'aime. Je l'ai appris dès le début de ma conversion, dès le début de ma marche avec lui. Dieu est amour, il est l'essence de l'amour, oui, nous le savons, mais est-ce que nous le vivons? Si Dieu nous regarde avec amour, avec compassion, avec patience, j'ai noté avec espoir, avec passion, amen, est-ce qu'il nous arrive de nous regarder comme ça? Est-ce qu'il nous arrive de nous aimer, de nous accepter? Alors bien sûr, je pense lire dans vos pensées ce matin, vous disiez certainement, certains n'ont pas de problème avec ça, ils s'aiment, il n'y a pas de souci. Mais voyez-vous, pour beaucoup, je crois, il nous arrive de ne pas nous accepter et peut-être même d'avoir du mal avec ce que nous sommes. Il y a un témoignage d'une femme qui m'a marqué cette année, qui m'a dit, tu sais Samuel, tous les soirs quand je me couche, je me fais un monde parallèle, comme une petite enfant peut se faire. Un monde de princesse, une jeune fille peut se faire un monde de princesse. J'imagine que je suis une autre femme, que je suis mariée avec quelqu'un d'autre, que j'ai d'autres enfants, parce que je ne me suis jamais acceptée dans ma vie. Elle m'a dit, regarde-moi, et j'avais jamais fait attention, mais dit, regarde, je ne prends pas soin de moi. C'est comme cela. Parce quoi? Parce que dans ma vie, je ne me suis jamais sentie acceptée. J'ai toujours cru que c'était pour les autres et jamais pour moi. C'est terrible. Quelques temps après, elle me dit, j'ai réalisé, le Saint-Esprit a fait une œuvre dans ma vie. C'est fini ce monde parallèle. Maintenant, je m'accepte tel que je suis. Amen. Alors, bien sûr, à une autre mesure, on peut le vivre également. Quand Jésus nous regarde, il ne voit pas des coupables. Parfois, on se sent tellement coupable, mais il ne nous voit pas des coupables. Oui, nous sommes coupables, mais il ne nous regarde pas comme coupables. Il voit des justes justifiés par son sang. Maintenant, on pourrait dire coupable, coupable, coupable à cause de ton péché. Mais Jésus te voit justifié par son sang. Il te voit comme un fils et une fille. Et une fille, nous sommes sauvés par grâce. Comment nous regardons-nous nous-mêmes? Souvent comme pécheurs, je suis pécheur. Et on dit souvent, je suis pécheur sauvé par grâce. Mais on retient plus cette portion de cette phrase si facile à dire, je suis pécheur. Et il y a, c'est vrai, peut-être de la culpabilité. Ce matin, je voudrais dire que attention à la non-culpabilité, mais attention à la culpabilité excessive aussi. Parfois, la culpabilité excessive m'empêche d'aller de l'avant, m'empêche de saisir les promesses de Dieu. Je regarde à ce que je ne suis pas, je regarde à ce que j'aimerais être, et je croule sous le poids de la culpabilité. Celui qui accuse, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Apocalypse 12, 10 nous dit « L'accusateur de nos frères, l'accusateur de nos sœurs. » Le diable se sert de la culpabilité pour nous freiner dans notre marche, dans notre progression avec le Seigneur. Bien sûr qu'il faut de la culpabilité néanmoins. C'est important la culpabilité. Sinon, sans culpabilité, je ne me reconnais pas comme pécheur et je ne passe pas par la repentance. Et à ce moment-là, la grâce de Dieu n'est plus effective dans ma vie. Elle ne sert plus à rien parce que pas de problème, je ne me sens pas coupable. Je pense qu'il faut être équilibré dans ce domaine-là. Et c'est quelque chose qu'il faut dire et redire, parce que souvent on croule sous ce poids-là et on n'arrive pas à avancer. La culpabilité est nécessaire. Moi, quand je punis mes enfants, j'ai envie qu'ils se sentent un peu coupables pendant quelques instants. Et vous le faites également, mais pas pendant une semaine, pas pendant plusieurs jours, juste qu'ils puissent comprendre son erreur pour ne pas la refaire. Et on doit bien sûr avoir cette culpabilité, mais attention à l'excès. Attention à l'excès. Bien sûr, on peut parler du péché, mais également pas forcément du péché, des erreurs qu'on peut faire dans nos vies. J'aurais dû élever mes enfants de telle manière. Je regrette. C'est de ma faute. Et ça, ça peut hanter des personnes tous les jours. J'aurais dû être davantage à l'écoute de mon conjoint. C'est de ma faute. J'aurais dû être moins carriériste et peut-être être plus présent pour ma famille. Ce n'est pas forcément un péché, mais c'est une façon de vivre, bien sûr, qui n'amène pas la bénédiction forcément dans un couple et dans un foyer. J'aurais dû être davantage à l'œuvre dans l'église locale, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû avoir de compromis dans ma vie. Ces petits compromis, ces petites choses qui peut-être ont fait passer quelqu'un à côté d'un appel particulier dans sa vie ce matin. J'aurais dû, c'est de ma faute. Ça fait une semaine que je n'ai pas lu ma Bible. Ça, c'est un péché. Un juste équilibre, bien sûr. Que je n'ai pas prié et je me sens tellement coupable. Et parce que je me sens coupable, je vais encore attendre une semaine pour pouvoir m'approcher de Dieu, pour que quelque part, il puisse oublier que ça fait une semaine que je ne suis pas venu. Mais au total, ça fait 2 semaines, 3 semaines que tu restes comme ça, loin de Dieu, et que ta vie spirituelle est stérile et elle ne progresse pas. Combien parfois ont vécu cela? C'est une réalité. ce que je dis, ça fait partie de notre vie, de nos églises. Et nos églises se ressemblent. La culpabilité empêche la grâce de Dieu d'agir et la non-culpabilité également. C'est parfois, comme je disais, bon de se sentir coupable, mais pas trop longtemps. Je pense que Dieu ne nous regarde pas comme des coupables et il veut nous encourager, sinon il n'aurait jamais donné une seconde chance à Pierre. Sinon il n'aurait jamais sauvé Jonas. Sinon même, il n'aurait pas rétabli David dans sa vie personnelle et spirituelle. Dieu nous regardant, combien il voit que nous avons besoin de lui et dépendre de ce qu'il nous a laissé. Il nous dit ce matin en particulier, tu as besoin de moi. Tu as besoin de te servir de ce que je t'ai laissé également. Pour que tu puisses te voir avec le bon regard. Tu as besoin de plonger tes regards dans la loi parfaite, la loi de la vérité. Tu as besoin d'avoir une intimité avec moi. Tu as besoin de laisser le Saint-Esprit grandir en toi pour que tu puisses te voir comme je te vois. Une vie de l'Esprit. Il y a un témoignage d'une jeune fille récemment qui me disait qu'elle a appliqué cela dans sa vie, une abondance de vie de l'Esprit, une abondance de parler en langue. Elle a vu des situations se débloquer dans sa vie. Pourquoi ? Parce qu'elle a réalisé que la vie de l'Esprit, ce n'était pas quelque chose d'optionnel, ce n'était pas quelque chose de superflu, c'était quelque chose de réel. Elle se voyait elle-même, elle voyait l'autorité qu'elle pouvait avoir en Christ, elle voyait qu'elle avait la possibilité de demander et de pouvoir imaginer obtenir. Parfois on demande, mais on se dit, mais est-ce que Dieu va réellement me donner ? Est-ce qu'il va réellement me donner cela? Est-ce que je suis en droit de demander? Mais parce que ma vie, justement, est transformée et je ne vois plus avec mes yeux, mais avec les yeux du Seigneur, au travers de la Bible et de la vie de l'Esprit, alors je peux demander et je vois des choses aboutir dans ma vie. Amen.
Amen.
Ces moyens-là sont tellement importants. Méditer la parole de Dieu, l'approfondir. Est-ce que tu trouves plaisir à mettre la parole de Dieu en pratique? Permettez-moi de vous tutoyer ce matin. Quel regard sur la parole de Dieu? Pénible? Obligatoire? Religieux, lourd, rituel, ou un bon regard joyeux, un besoin. Dieu me parle, c'est la nourriture de mon âme. J'aime cela, je le fais de différentes manières. Je la médite, je l'étudie, j'écoute des prédications, j'ai une Bible d'études, j'ai des livres qui parlent de la parole de Dieu. Ça me fait du bien. Elle est attrayante, la lecture de la Bible. Hier, nous avions une petite réunion comme ça, informelle, de quelques jeunes à la maison. Nous étions 8. Et alors qu'on peut prêcher des messages semblables à celui-ci, il s'est avéré que beaucoup encore, même avec des années de conversion, ont une image pas tout à fait juste de ce qu'est la parole de Dieu. Ils ont du mal à pouvoir saisir la parole de Dieu, à même savoir quoi lire. Un jeune me disait, mais j'ai besoin qu'on m'aiguille. J'ai besoin de savoir quel livre peut réellement me parler. Et pourtant, en entretien, on lui dit, mais on a besoin de changer parfois notre mentalité et de dire, mais ça doit être quelque chose d'attrayant. En tout cas, je veux tout faire pour la comprendre et pour qu'elle puisse vraiment être passionnante dans ma vie. Également, la prière. La prière est la vie de l'Esprit. Faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Comment j'aborde mes moments de prière? Et on a parlé de la prière aussi. C'était pas du tout prévu, mais on voit que c'était fort sur leur cœur. C'est eux qui ont amené ce sujet-là. Et parfois, la prière, on a du mal à rester longtemps en prière. On a du mal à orchestrer notre vie de prière. Je crois qu'il y a des choses à savoir. On en parlait vendredi également de la vie de prière. Est-ce que j'aime passer du temps avec Dieu? Comment je le fais? Est-ce que c'est un moment de qualité? Souvent maintenant, faute de temps, vous savez ce qu'on dit, « Ah, j'ai pas beaucoup de quantité avec mes enfants, mais j'ai des moments de qualité. » C'est vrai, on dit cela, hein. C'est vrai, en quelque sorte, mais quand on est passionné, qu'est-ce qu'on cherche? La quantité. Messieurs, au début de votre union avec votre fiancé, qu'est-ce que vous cherchez? La qualité, 10 minutes par semaine ou chaque jour? Et on cherche aussi la quantité, et quelque part, dire « je cherche la qualité », c'est se cacher derrière le fait qu'on n'est pas capable d'avoir de la quantité. Vous me suivez? Quel aspect de la prière? Comment je regarde la prière? Toutes ces choses qui vont m'aider à me voir moi-même, à remplacer mon regard par celui de Christ. Seigneur, tu ne m'accables pas ce matin. Et c'est un message d'encouragement. Tu me relèves, tu me fais du bien. Je vais à mon tour me regarder comme tu me regardes. Pas de fausse culpabilité, pas d'excès de culpabilité. Mais je veux déposer la culpabilité comme un fardeau. Pour certains, c'est un fardeau. Il est celui qui veut nous alléger. Il veut enlever ce fardeau de nos vies de culpabilité ou peut-être autre chose. Comment je me regarde ce matin? Comment je regarde l'autre maintenant? Deuxième point. Parce que si je me regarde moi avec un certain regard, et si je réalise que Dieu me regarde comme un fils, je dois réaliser qu'il regarde mon frère comme un fils également. Et je dois le regarder, mon frère, ma sœur, comme Dieu la regarde. Avec amour, avec compassion, avec pardon, avec fidélité. Je le regarde comme cela. Puisque Dieu le regarde comme moi, je dois le réaliser. Si c'est difficile parfois de se voir comme cela, j'imagine, et Dieu le sait, que c'est bien plus difficile de voir son frère, sa sœur comme cela. avec un regard d'amour, de compassion. Regardez l'autre. L'autre, c'est mon prochain, croyant ou non croyant, né de nouveau ou encore mort dans ses péchés. Et je dois le regarder comme Dieu le regardait. Ça, c'est difficile. Jésus sait bien que ce n'est pas naturel de le faire. Mais avec l'action de l'Esprit dans nos vies, si on le laisse libre cours dans nos pensées, dans notre cœur, alors c'est possible. Matthieu 7,3 nous dit un verset tellement important, fondamental, qu'on a besoin de se rappeler si souvent dans nos vies. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? La version Darby dit « Pourquoi regardes-tu ?» C'est plus voir. « Regardes-tu le fétu de paille, le brin de paille, le tout petit brin de paille, et toi, tu as une poutre dans l'œil. » Et il est question là des frères de l'Église. Et moi, je trouve qu'il y a un miracle dans ce verset-là. Moi, c'est un miracle. Parce que quand j'étais jeune, je ne comprenais pas ce verset. Je me suis dit, mais j'étais voir mon père, alors j'étais jeune converti, je me suis dit, mais une poutre, c'est quoi? C'est une vraie poutre? Jésus a vraiment pris cette image de la poutre, d'une charpente, d'une maison. Je me dis, c'est peut-être autre chose, peut-être. Non, non, c'est vraiment une poutre. Et je me dis, mais ça, c'est un miracle. Comment avec une poutre, tu peux voir un brin de paille? Rien que l'envergure d'une poutre t'empêche justement d'être proche de la personne. Mais on voit que justement, faire de voir la poutre, c'est plus voir la paille, c'est regarder la paille en définitive. Parce que pour voir un brin de paille dans l'œil de mon frère, il faut que je m'applique à regarder. Il faut que je m'applique à voir, il faut que je sois proche de lui. Et parfois, on est proche des personnes, non pas pour bénir, non pas pour encourager, mais pour voir ce qui ne va pas. Et comment se fait-il qu'avec cette poutre, j'arrive à voir? C'est un miracle. Seigneur, ôte ma poutre. Ôte ma poutre, Seigneur. Ôte ma poutre. On a tous des poutres dans nos vies. Comment je regarde mon frère? Comment je regarde ma sœur? Avec amour? Ah, tu as fait une erreur. Tu m'as blessé. C'est dur, je te pardonne. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi, mais demain, c'est moi. Tu vas devoir me pardonner. Et à ce moment-là, je compte sur ton pardon. Comme j'ai pu te pardonner, n'oublie pas que tu dois me pardonner. Oublions parfois, faisons un reset. Cherchons Christ en chacun de nous. Et certains diront, pour certains, il est bien caché. Mais cherchons Christ en chacun de nous. C'est un défi pour nous. Certains pourraient dire cela. Et puis, prions pour ce qui est visible, le bon, soit retenu. 1 Thessaloniciens 5,21 nous dit, examinez toutes choses. Examinez, c'est regarder. Mais retenez, ce qui est bon. Retenez ce qui est bon. Et je voulais faire une application dans ma vie de cela. Retenir ce qui est bon. Parce que si je ne retiens pas ce qui est bon, je suis toujours lamenté, je suis toujours les bras ballants, je suis toujours dire ça ne va pas, je retiens ce qui n'est pas bon. Mais ce matin, je veux retenir ce qui est bon dans ma vie, je veux retenir ce qui est bon dans l'église, je veux retenir ce qui est bon dans la vie de mon frère et de ma sœur. Amen. Faites-moi un sourire. Alléluia. Amen. Seigneur, c'est ce que tu fais avec moi. Tu retiens ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, tu veux l'améliorer. Ce qui n'est pas bon, tu veux que je puisse le gommer. Tu me révèles par l'Esprit, tu me révèles par ta parole ce qui n'est pas bon. Mais tu retiens ce qui est bon, heureusement, amen. Et tu veux que ce qui est bon puisse davantage être bon. Ce qui est mauvais, prions pour que Dieu le transforme. Prions pour cela. Et je me suis rendu compte dans ma propre vie, alors que je voyais parfois des choses qui n'allaient pas, le Saint-Esprit me dit, mais est-ce qu'au moins tu as déjà prié pour cela? Est-ce qu'au moins tu as pris du temps pour prier ce qui n'allait pas? Non, c'était plus facile de le dénoncer. Je le confesse ce matin. Ça a changé et ça changera encore. Amen. Tu examines toute chose, Seigneur. Tu veux que ce qui est en moi puisse disparaître. Comment je vais regarder mon prochain en dehors de l'Église et mon frère dans l'Église? Et troisièmement, comment regarder ensemble dans la même direction? Bien sûr, pour pouvoir regarder ensemble dans la même direction, il faut pouvoir se regarder déjà, première étape, comme Dieu nous voit. Regarder mon frère, ensuite, qu'il y ait cette unité dans l'Église. Et c'est important, l'unité. Voyez-vous, Jésus dira, si deux d'entre vous s'accordent, si deux d'entre vous sont unis, alors ils pourront obtenir. Et parfois, il y a un manque d'unité. On peut fréquenter la même Église, on peut avoir le même pasteur, venir aux mêmes adresses chaque semaine, et pourtant ne pas être unis dans l'Esprit. C'est vrai ou pas? Et je veux être unis ce matin. Je veux regarder, et pour ça, j'ai besoin de me regarder comme tu me regardes, et regarder mon frère, ma sœur, comme tu me regardes. Amen. La notion d'unité est primordiale. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et avec cette unité-là, nous devons regarder ensemble là où Jésus regarde. Qu'est-ce que Jésus regarde? Beaucoup de choses. Et j'aimerais juste parler peut-être de deux axes ce matin. Et commencer avec celui-ci. Ce que Dieu regarde, ce que Dieu désire, ce qu'il a laissé comme ordre aux disciples, c'est justement de faire des disciples. Amen. Ce que Jésus désire, cela, c'est une église épanouie. Une église où chacun va pouvoir grandir spirituellement, mais va pouvoir aussi faire des disciples. L'évangélisation et la formation de disciples. Amen. C'est les deux grands axes du Seigneur. C'est la grande vision par la grande mission. Amen. Bien sûr, une église qui marche dans la sainteté, dans la sanctification, qui refuse le compromis. Des chrétiens qui vont travailler à refuser le compromis, à vivre comme Jésus veut. Bien sûr, c'est bien de se voir comme un fils, mais aussi une attitude. Le Père attend quelque chose du fils. Le Père attend quelque chose de la fille. Il attend qu'il y ait un échange, mais aussi il mise sur le fils et sur la fille. Certains vont peut-être même arrêter d'aller en vacances pendant plusieurs années pour payer des études parce qu'ils attendent quelque chose en retour, non pas pour eux-mêmes, mais juste pour que déjà le fils et la fille soient bénis, épanouis dans son travail et dans la vie que Dieu lui donne. Et Dieu attend quelque chose aussi en retour de nous. Et c'est pouvoir travailler à cette unité et faire des disciples, possédant et appliquant dans notre vie les caractéristiques du disciple. Avant de vouloir faire des disciples, il faut soi-même être des disciples. Et moi, je crois que l'Église passe par des phases où Dieu peut-être n'envoie pas des âmes comme on le souhaiterait, parce qu'il y a d'abord un besoin de travailler sur soi, sur l'accueil, sur la formation, sur l'étude de la parole, sur la vie de prière, sur la vie de l'esprit, sur le conseil. Et je vous dis une chose, Dieu n'est pas limité. Il enverra des hommes, il enverra des femmes. Avec le peu d'années que j'ai dans l'évangélisation, et j'aime l'évangélisation, j'aime aller dans la rue, mais je me rends compte que on a beau aller donner des prospectus, faire des mimes comme on a fait à Istres récemment, où la jeunesse de la Provence Ouest s'est réunie pour impacter la ville d'Istres, et elle le fera dans d'autres villes encore. Il n'y a jamais autant de personnes qui viennent que c'est Dieu qui les envoie, que nous qui pouvons les amener. Si on devait faire un recensement des personnes qui sont venues soit amenées par un chrétien, parce qu'il y a eu une confiance, parce qu'il y a eu une relation amicale, parce que c'est quelqu'un de la famille, parce que c'est un ami, ou quelqu'un qui est venu tout seul parce qu'il a été poussé par le Saint-Esprit à venir, et ceux qu'on a été chercher dans la rue, on serait étonné. Le Seigneur est capable d'envoyer des personnes. À nous de pouvoir les accueillir. Mais pour ça, j'ai besoin d'être un disciple. Faire des disciples, d'abord, être un papa et une maman spirituelle. Enfanter spirituellement. Et ça coûte d'enfanter spirituellement. Regardez où Dieu veut que nous puissions regarder, c'est cela, être un papa et une maman. Alors, ce n'est pas parce qu'on n'a pas amené quelqu'un dans l'église. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas amené quelqu'un à la conversion qu'on ne peut pas être un père et une mère spirituelle. Parce qu'il y a des personnes dans l'église. Il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des adolescents, il y a des couples, il y a des aînés. Et on peut travailler ensemble à justement pouvoir aller de l'avant, à être de ceux qui vont encourager, qui vont prendre soin. Non pas surveiller, mais veiller sur. Être un père et une mère spirituelle. J'ai conseillé les jeunes hier, alors que nous prions, j'ai senti le Saint-Esprit me dire, si Jésus a mis en place une chose, c'était des binômes. Il a mis en place cela. Jésus avait une stratégie. On a peur de ce mot, stratégie. Mais Jésus avait une stratégie. Il a dit, allez d'abord vers les disciples, la maison d'Israël. N'allez pas vers les païens. Donc d'abord, il voulait impacter donc les Hébreux, il voulait impacter les Juifs. Et deux par deux. Et j'ai dit, voilà ce qui serait bien, c'est qu'on puisse constituer des binômes. Des jeunes qui vont pouvoir s'appeler 2 à 3 fois par semaine pour ne pas parler, parce qu'on sait parler de football, de voiture, de tout ce qu'on veut, mais parler des choses de Dieu qui sont tellement tabous dans nos églises et dans nos groupes de jeunes. Et on a constitué des binômes. J'ai demandé, bien sûr, s'ils étaient intéressés à cela. Et ils l'ont validé. Et j'ai vu qu'il y avait une joie, un enthousiasme. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de veiller sur. Pas de surveiller, mais de veiller sur. Juste partager peut-être ce qu'on lit. Tiens, j'ai lu cela aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Qu'est-ce que tu en penses ? Et ce serait bien qu'on puisse parler de cela, développer lors d'une prochaine peut-être réunion. Veiller sur. Et parfois, on ne veut pas veiller sur parce qu'on a peur de passer pour un donneur de leçons. Pour un très, très spirituel. On a peur de cela. Bien sûr, pour cela, il faut développer une amitié pour pouvoir conseiller. Si vous vous mettez à la sortie de l'église et que des personnes avec qui vous n'avez pas forcément des affinités, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des affinités excessives dans l'église, hein. On est 50, 100, 60, imaginez les églises de 500, il y en a qui ne se connaissent peut-être même pas. Et vous ne pouvez pas donner des leçons comme ça, mais parce qu'il y a une amitié, une intimité, alors on peut pouvoir encourager, veiller sur, être un disciple qui enfante, qui a le souci de l'autre. Ils étaient 120 dans la chambre haute. Et Jésus ne les a pas laissés sans rien. Ils auraient pu dire, mais comment on va faire pour aller évangéliser le monde? Comment on va faire? Voici, je suis avec vous tous les jours, Jésus dira, par mon esprit. Et je remarque que souvent, on a l'impression de travailler seul. Même parfois dans le ministère, ça peut nous arriver l'impression de nous débattre. Peut-être que quelqu'un a une responsabilité dans l'église et l'impression d'être seul, que cette responsabilité devient plus un poids qu'une joie. Et je pense qu'on a le faire avec joie. Et si c'est le cas, il faut revenir aux fondamentaux. Jésus est avec nous. Tu n'es pas seul. Il t'a donné quelque chose, le Saint-Esprit. Il t'a donné la Bible pour que tu puisses vraiment être épanoui dans cette œuvre. C'est lui qui fait l'essentiel. C'est lui qui fait l'essentiel. Nous avons juste besoin de dépendre de lui. Amen. Il est avec nous chaque jour. C'est lui qui convainc. C'est lui qui attire, comme je disais. C'est lui qui sauve. C'est pas nous. Parfois, nous voulons tellement fixer la barre haut comme cela que nous pouvons dire, mais je ne vais pas y arriver parce que Dieu ne t'a pas demandé de faire cela. Jésus t'a demandé d'être fidèle, de chercher mon esprit, être en communion avec lui. Et il fera le reste. Et alors, ça nous allège dans ce que nous pouvons entreprendre et de ce que Dieu nous demande d'entreprendre pour lui. Nous regardons la mission trop grande, trop dure. 55 000 habitants dans cette ville d'Arles. Seigneur, envoie des âmes. On est là dans l'attente. On a une belle église, c'est merveilleux. Mais la mission n'est pas trop dure. Il y a deux façons de la voir. Et laissez-moi vous raconter l'histoire de Joe et de Jim. Vous connaissez l'histoire de Joe et de Jim? Ce sont deux commerciaux en chaussures. Ils vendent des chaussures. Et le patron leur dit, voilà, vous allez aller dans un pays du tiers-monde et vous allez étudier le marché pendant un mois. Ils vont tous les deux avec leurs notes, avec leur iPad, avec leur caméra, avec leurs photos pour voir étudier le marché dans ce pays-là. Et puis les deux reviennent et font le rapport. Le premier, Joe, rentre et le patron lui dit « Alors, qu'est-ce que tu en as passé de ce mois passé dans ce pays-là » Il dit « Ben, je ne sais pas si c'est une bonne idée. » Vous savez, dans ce pays-là, ils sont tous pieds nus. On n'a pas la place pour nous implanter, c'est dans la culture, c'est comme cela. On ne pourra jamais, le défi est trop grand, la mission est trop dure. Il dit autre chose et puis hop, il sort du bureau et puis vient Jim. Et là, Jim, il n'a pas le même visage. Même expression. Il dit alors, Jim, qu'est-ce que tu as pensé de cela? Il dit, mais c'est super! C'est super, vous ne vous rendez pas compte, vous avez une idée de génie. Ils sont tous pieds nus. On va vendre des chaussures, il faut délocaliser l'usine, il faut aller là-bas. Il y a une mission qui est grande, qui nous attend, il y a un résultat qui va en découler. Deux façons de voir différentes. Amen. Il y a quelques années, il y a eu une idée qui a émergé du pasteur précédent, Nicolas Pradal. C'était d'aller dans un quartier et de pouvoir faire un programme pour les enfants dans la ville de Salon. Au début, c'était difficile. Mais aujourd'hui, on commence à voir du fruit, 7 ans après. Et je disais à une des responsables qui était encouragée, je lui disais, mais imagine encore dans 7 ans, ça fera 14 ans. Si déjà dans 7 ans, au bout de 7 ans, il y a une certaine confiance, on voit du résultat, on voit des enfants réceptifs qui attendent ce jour-là pour venir sur une bâche. Il y a à peu près 20 enfants qui écoutent. Il y a les parents qui sont à côté, qui ont un contact aussi. Beaucoup sont des musulmans ou des gitans, mais il y a un très très bon contact. Et je me dis, mais imagine dans 7 ans. Au début, c'était peut-être un défi tellement grand. Au début, ils ont eu, c'est vrai, des soucis. On leur a jeté des œufs, on leur a jeté peut-être des cailloux. Ça a été difficile. Les réseaux de drogue n'étaient pas trop pour qu'ils puissent venir s'implanter. Mais maintenant, ils sont acceptés. Et aujourd'hui, il y a un résultat. Amen. Comment je vais voir comme Joe ou comme Jim? Comment je vais voir comme Josué et Caleb ou comme les 10 autres? Seigneur, il y a un défi et je veux travailler ensemble et qu'on puisse regarder ensemble dans la même direction en comptant sur ton assistance. C'est lui qui bâtit l'église. C'est lui le maître de la moisson. Et il prie pour que, justement, il y ait des ouvriers dans cette moisson. C'est lui qui nous qualifie. Je pense que Dieu désire que notre regard soit sans cesse renouvelé, pour voir comme il veut sans cesse transformer, pour que nous puissions regarder comme lui regarde. C'est pas toujours l'église qui a besoin de changer. C'est pas toujours le pasteur qui a besoin de changer. C'est pas toujours les chrétiens. C'est juste parfois mon regard. Comment est-ce que je regarde la vie chrétienne? Comment est-ce que je regarde l'église? C'est pas toujours mon frère, ma soeur, c'est pas toujours mon conjoint, mes enfants, mes parents qui doivent changer. C'est juste parfois mon regard. Je terminerai juste avec cette histoire pour imager cela. C'est un homme qui est étranger, qui vient dans une ville et qui va voir son voisin qui dit, voilà, j'espère que dans cette ville, les personnes ne sont pas comme dans la ville d'où je viens. Il dit, ah bon, comment sont les personnes qui sont dans la ville d'où vous venez? Ben, ils ne sont pas accueillants, ils ne sont pas hospitaliers, c'est chacun pour soi, ils ne sont pas serviables. Et le gars dit, ben, alors vous savez, ici, justement, ils sont tous comme ça. Et là, il repart un petit peu déçu. Quelques instants après, il change un petit peu sa façon de voir, et puis il voit un autre voisin, quelques jours après, il lui dit, voilà, j'espère que ces habitants dans cette ville sont comme les gens qui sont dans la ville où j'étais avant. Il dit, ah bon, comment ils étaient? Ben, ils étaient chaleureux, ils étaient accueillants. Ils pouvaient rendre service facilement. Ils étaient à l'écoute. Il y avait vraiment une entraide qui était là dans les voisins. Il dit, ben, vous êtes bien tombés. Ici, les gens sont comme ça. Amen. C'est pas moi qui ai besoin de changer. C'est justement mon regard qui a besoin de changer. Seigneur, que je puisse me voir comme toi, tu me vois. Seigneur, que je puisse voir mon frère, ma sœur, mon église comme toi, tu la vois. Et que ce ne soit pas que des mots, parfois c'est juste des mots. Appliquons-le dans nos vies, vous verrez que notre vie va changer. Sauf que ça fait parfois des années qu'on est comme cela, des années qu'on regarde d'une certaine manière qui n'est pas forcément mauvaise, mais qui n'est pas forcément bonne non plus. Et on est là et on a l'impression de ne pas avancer, mais c'est mon regard qui a besoin de changer au travers de la Bible, au travers de ma relation avec le Saint-Esprit, que je puisse travailler à ce que l'église puisse regarder ensemble dans la même direction, que nous ne puissions pas nous arrêter encore à les choses élémentaires comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais que nous puissions maintenant passer à autre chose. Des choses qui nous attendent, voir une grande moisson d'âmes, voir des disciples, des hommes et des femmes épanouis, matures spirituellement. Amen. C'est le programme que Jésus a voulu. Est-ce que vous voulez cela pour votre église? Amen. Je veux ça pour mon église. Je veux ça pour toutes les églises de France. C'est ce que Jésus a désiré. Seigneur, change mon regard. Amen.